Bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode dans lequel nous allons parler de la procrastination. Et surtout dans lequel nous allons voir ensemble que la procrastination est ni plus ni moins qu'un mécanisme de défense déployé par votre cerveau. Et donc, qui dit mécanisme de défense, dit la possibilité de supprimer ce mécanisme en rassurant votre cerveau et notamment au travers de deux leviers dont nous allons parler. Mais avant toute chose, si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jérémy Coron et je suis notamment l'inventeur de la méthode neuroproductivité, une méthode de productivité basée sur les neurosciences. Et également, je suis l'auteur du livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif » disponible aux éditions Erol. Ok, commençons par la base. Voyons ce que ma compréhension actuelle des neurosciences me permet de dire au niveau de la procrastination. Selon moi, deux éléments rentrent en jeu quand on parle de procrastination. Deux leviers viennent déclencher ce phénomène-là. Phénomène qui fait que vous repoussez, vous, potentiellement des tâches urgentes et importantes. Phénomène qui fait également que vous repoussez à plusieurs jours, plusieurs semaines des projets, des ambitions, la reprise du sport et j'en passe. Le premier de ces leviers, c'est un degré trop important de friction limbique. Qu'est-ce que la friction limbique ? C'est le degré et le niveau d'énergie nécessaire pour faire une action. Et là, je vais revenir à un élément qui est capital dans ma compréhension du fonctionnement du cerveau humain, à savoir le fait que le cerveau est tout simplement programmé non pas pour être productif, mais pour survivre. Et donc, entreprendre une tâche qui demande trop d'énergie, c'est priver directement votre cerveau de son principal levier de survie, à savoir l'énergie qu'il a à disposition immédiate, qu'il peut mobiliser rapidement pour soit faire face à un danger en combattant ce danger en question, soit pour faire face à ce danger en, à l'inverse cette fois-ci, fuyant ce danger. Car qui dit absence d'énergie dit impossibilité de se battre ou de fuir efficacement. Donc si une tâche demande trop d'énergie pour être accomplie, le cerveau va naturellement fuir cette tâche, ou du moins la repousser le plus possible jusqu'à son échéance. Et là je vais faire une parenthèse plutôt intéressante je pense. Pourquoi passons-nous davantage à l'action quand le délai se raccourcit ? Pourquoi d'un coup reprenons-nous goût à la motivation quand on est à quelques jours de l'échéance fatidique? La raison, elle est simple, c'est le fait que la peur l'emporte sur le plaisir d'accomplir la tâche. Je m'explique. Il y a deux façons de motiver quelqu'un, soit l'éros, soit le thanatos. L'éros étant le désir de faire quelque chose et d'obtenir quelque chose, thanatos étant la peur, justement, d'éviter la douleur, la peur de la mort précisément. Thanatos étant le dieu grec de la mort. Et au niveau tout simplement de la psychologie évolutive, on le sait parfaitement bien, comme quoi le cerveau humain réagit davantage à la douleur qu'au plaisir. Et c'est la raison pour laquelle l'anticipation d'une sanction en cas de non-passage à l'action nous pousse justement à passer à l'action. Et plus la sanction est proche, car la deadline vient tout simplement s'amenuiser, plus cette douleur future vient se faire ressentir au niveau du cerveau, ce qui nous pousse à l'action. Mais ça, c'est la situation que nous souhaitons éviter justement aujourd'hui. On souhaite arrêter de travailler dans l'urgence. On souhaite arrêter de constamment attendre la veille au soir pour passer à l'action, ou d'attendre potentiellement des maladies, des comorbidités et autres avant de se remettre au sport ou de se reprendre en main. Donc, comme on l'a vu précédemment, comme j'ai pu l'évoquer, c'est véritablement cette notion d'énergie à déployer qui peut poser problème et qui peut repousser le passage à l'action. C'est ça ce qu'on appelle encore une fois le niveau de friction limbique. Et plus vous allez diminuer cette friction-là, en passant à l'action sur des petites tâches pour commencer, par exemple en segmentant littéralement vos projets en micro-tâches, plus la procrastination va disparaître. Donc ça, c'est pour le premier levier qui peut poser problème, qui peut induire une procrastination trop élevée. C'est le fait de devoir faire face à une tâche qui demande trop d'énergie. Ensuite, deuxième levier qui vient compléter le premier, c'est tout simplement la synchronité entre l'action, plus précisément l'effort, et la récompense à obtenir. En fait, il faut que vous sachiez que le cerveau humain, il est prédictif. Autrement dit, il ne réagit pas à son environnement, mais il prédit les conséquences de ses actions au quotidien. Ce qui explique typiquement que l'on salive quand on sent une odeur de croissant, ou que l'on est excité lorsque l'on pense à des pensées justement excitantes. Il n'y a pas d'action à proprement parler, mais vu que le cerveau anticipe potentiellement le fait de manger ou d'avoir un rapport sexuel, directement, il vient induire des réactions physiques et biologiques dans le corps, le préparant à entreprendre ce qu'il pense entreprendre. Donc, rappelez-vous, le cerveau, son but premier, c'est la survie. Ce qui veut dire simplement qu'il n'a aucun bénéfice à entreprendre une action qui ne lui rapporterait rien, et notamment qui ne lui rapporterait aucune augmentation rapide de ce qu'on appelle ses ressources disponibles. Que sont les ressources disponibles ? Ce sont tous les éléments qui lui permettront d'augmenter justement sa capacité à survivre. Ça peut être des ressources typiquement comme des relations en plus, donc l'augmentation de son réseau. Comme ça, lorsque l'on fait face à un danger ou un problème, on sait qui appeler pour potentiellement nous aider. Ça peut être des ressources en termes de temps supplémentaire. Ça peut être également des ressources financières, amoureuses ou de sécurité. Par exemple, avoir un logement, avoir un toit, c'est une ressource de sécurité supplémentaire qui vient s'ajouter aux autres ressources. Donc, chaque action que vous entreprenez au quotidien, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à cette vocation-là, à cette finalité-là d'augmenter vos ressources disponibles. Et ça, c'est médié notamment par la production de dopamine. La dopamine étant simplement le neurotransmetteur de la motivation et non pas du plaisir comme on l'entend souvent. La dopamine véritablement induit la motivation à aller chercher justement une augmentation des ressources disponibles. Sauf que le problème, c'est que l'effet de la dopamine, il est très court, il est très bref. Et que si l'action que l'on va entreprendre à un instant T ne rapporte pas immédiatement ou sous un délai assez court la ressource disponible que l'on souhaite obtenir, eh bien la motivation va s'estomper. Là, je vais reprendre un exemple que j'aime bien citer. Prenons l'histoire d'un lointain ancêtre, qui justement, donc un homme préhistorique, qui apercevait au loin un troupeau de mammifères. Lui, inconsciemment, se dit au niveau de son cerveau, « Ok, troupeau égale potentiellement une chasse à effectuer pour obtenir une augmentation de mes ressources disponibles. » Augmentation en termes de justement de nourriture, en termes de fourrure et j'en passe. Donc l'homme préhistorique, au niveau de son cerveau, va subir une augmentation brève et intense de sa dopamine, qui va lui donner les ressources physiologiques nécessaires pour aller entreprendre la chasse, et donc pour aller potentiellement poursuivre ce troupeau en question jusqu'à abattre une ou plusieurs proies. Sauf que imaginons que le troupeau lui échappe, qu'il n'est pas assez rapide, pas assez habile pour chasser les proies qu'il comptait chasser. Là, immédiatement, dans son cerveau, un disjoncteur va se mettre en place, qui va venir inhiber la production de dopamine, pour éviter que l'homme préhistorique vienne s'épuiser inlassablement à essayer de chercher la proie, à essayer de la poursuivre jusqu'à mourir par épuisement. Et ça, c'est tout le fonctionnement de la dopamine. C'est que chaque pic de dopamine est suivi d'un creux de production de dopamine qui vient couper l'élan de la personne. Et donc, quand on parle de couper l'élan, on parle de couper la motivation à entreprendre les actions nécessaires pour obtenir la récompense que l'on souhaite obtenir. Ce qui fait simplement que pour une tâche donnée, on ne va pas s'épuiser à entreprendre les actions nécessaires pour mener la tâche à bien si on n'a pas de récompense immédiatement après avoir entrepris les premières actions. Et ça, c'est un véritable problème dans le mode de fonctionnement sur lequel nous sommes aujourd'hui au niveau du salariat. Pour quelle raison ? Car autant à l'époque préhistorique, chaque action entreprise était suivie d'une conséquence immédiate. Soit j'obtiens la récompense que je comptais obtenir, auquel cas la dopamine est stabilisée et vient tranquillement réduire, soit je n'obtiens pas la récompense que je souhaitais obtenir, auquel cas la dopamine va rapidement tomber, diminuer, afin d'éviter justement que je m'épuise dans une course perpétuelle pour au final ne rien avoir. Donc ça, c'est la version passé, l'évasion de nos lointains ancêtres. Sauf que aujourd'hui, comment nous fonctionnons dans notre monde actuel ? Eh bien, nous travaillons durant 30 jours pour une récompense qui ne survient que le 31e jour du mois, à savoir le salaire. Voire potentiellement, on travaille un an complet pour espérer obtenir une augmentation. Et ces deux délais-là, donc 30 jours et un an, sont beaucoup trop longs au niveau du cerveau humain. La production de dopamine a largement le temps de chuter et donc la motivation a largement le temps de s'estomper, ce qui explique encore une fois la procrastination. Donc tout ça nous donne deux leviers sur lesquels on peut jouer. Premier levier, réduire simplement la friction limbique, donc le niveau d'énergie pour entreprendre une action. Deuxième levier, réduire cette fois-ci le temps qui sépare l'action de la récompense. Et sans ça, véritablement, que je souhaite affirmer que la procrastination est uniquement un mécanisme de défense du cerveau humain pour le protéger de s'épuiser jusqu'à avoir des conséquences potentiellement négatives sur ses capacités de survie sans récompense en parallèle. Ok, donc d'une part nous avons le premier levier qui est tout simplement le fait qu'il faut réduire l'énergie nécessaire à déployer pour faire une action, et l'autre part, le deuxième levier, qui dit simplement qu'il faut réduire le temps de latence qui sépare l'effort de la récompense. Et c'est en ça, encore une fois, que la procrastination est uniquement, selon moi, non pas une tare, non pas un problème, non pas un défaut, mais un simple mécanisme évolutif qui est là pour nous préserver. Et si on joue avec les règles de ce mécanisme-là, si on joue avec les règles de notre cerveau, eh bien, naturellement, la procrastination va disparaître. Et maintenant, je vais vous proposer deux leviers, deux outils, deux stratégies pour commencer à jouer avec ces règles-là. Mais avant toute chose, si cela peut vous intéresser, sachez que j'ai mis à votre disposition directement en description une fiche résumée de cet épisode dans laquelle j'ai retranscrit chacun des points clés, dont les passages à l'action dont je vais vous parler juste après. Fiche qui ouvre droit également pour information à un forum privé sur lequel vous pouvez directement me poser toutes vos questions. Que ce soit des questions en lien avec cet épisode ou des questions d'ordre général en lien avec l'approche scientifique de la productivité. Ok, premier outil. Le fait de créer un système de récompense aléatoire. Je m'explique. On va jouer ici ensemble sur des stratégies déployées notamment par les casinos pour rendre addicts leurs utilisateurs. Et ce faisant, nous allons jouer directement sur la réduction de la latence qui sépare tout simplement l'effort de la récompense. Ok. Donc, comment allons-nous faire ? Nous allons simplement mettre en place un système qui vient non pas offrir des récompenses au bout de 30 jours d'efforts consécutifs, mais au bout d'une semaine d'efforts. Et ces récompenses, on va leur donner un caractère aléatoire. Pour quelle raison ? Car la dopamine, dont on a parlé précédemment, à savoir du coup le neurotransmetteur de la motivation, fonctionne par un mécanisme qu'on appelle tout simplement l'erreur de prédiction. Erreur de prédiction qui peut être positive comme négative. Qu'est-ce que cette erreur de prédiction ? On va reprendre le cas tout simplement de notre ancêtre qui a vu au loin, disons, une biche. Donc là, il commence à poursuivre la biche en question suite au pic de dopamine qui lui a donné les ressources physiologiques nécessaires pour le faire. Donc il poursuit la biche et au-delà de la colline sur laquelle il l'a vue, une fois qu'il a atteint le sommet de la colline, que voit-il ? Il voit un troupeau de biches cette fois-ci. Donc là, lui qui s'attendait à obtenir uniquement une biche après sa chasse, voit un potentiel énorme. Et là, sa dopamine monte en flèche directement. Donc là, c'est la situation numéro 1, avec l'erreur de prédiction positive. Ensuite, nous avons l'inverse, l'erreur de prédiction négative. Imaginez que vous avez un enfant, si jamais vous n'en avez pas, et vous lui promettez, en rentrant de course par exemple, un carreau de chocolat noir. Vous rentrez des courses, et là, une fois arrivé chez vous, votre fils ou votre fille vous demande « Est-ce que je peux avoir ce carreau ?» Et là, malheureusement, il n'y en a plus chez vous. Et en course, vous n'en avez pas acheté. Automatiquement, le cerveau de votre enfant qui avait justement cette prédiction intéressante pour recevoir du chocolat, qui en plus est un aliment dit dopaminergique, car il procure notamment une élévation des taux de sucre et de gras dans le corps, deux matières essentielles pour l'énergie, et bien automatiquement, cette prédiction vient, au final, ne pas se réaliser. Donc sa dopamine va chuter fortement. Et donc nous, on va jouer sur ces deux éléments-là. Car qui dit chute de dopamine, je finis véritablement justement l'explication avant de passer à la suite, qui dit chute de dopamine dit tout simplement la volonté pour le cerveau humain de compenser cette chute rapidement pour retomber à ce qu'on appelle le niveau de base. Ok, donc comment va-t-on jouer sur ces deux éléments-là, plus cette notion justement de réduire la latence ? Eh bien simplement, nous allons mettre en place un système de tirage au sort de récompense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez prendre devant vous 8 feuilles de papier. 8 feuilles sur lesquelles vous allez inscrire un total de 5 récompenses, on va dire faibles. Typiquement, le carreau de chocolat. Par exemple, boire un café qui vous plaît. Par exemple, faire une pause sur votre téléphone pour jouer à votre jeu favori, etc. Ensuite, vous allez prendre la 6e feuille, sur les 8 encore une fois, pour écrire une grosse récompense. Par exemple, vous offrir un cinéma, une séance de massage, une séance de spa, un restaurant. Et vous allez laisser ensuite 2 feuilles vierges, donc sans récompense, sans rien d'écrit dessus. Ensuite, chacun de ces papiers, vous allez les placer dans des enveloppes séparées. Vous allez faire un tas d'enveloppes que vous allez mettre directement, de façon visible, dans votre espace de travail. Et maintenant, chaque fin de semaine, si vos objectifs sont atteints, vous allez tirer aléatoirement une de ces enveloppes. Enveloppe qui peut contenir du coup 3 possibilités, soit une petite récompense, auquel cas un petit pic de dopamine qui survient justement à l'obtention de la récompense. Deuxième possibilité, vous allez directement tirer une grosse récompense. Donc là, on est sur une erreur de prédiction qui est positive. Et enfin, potentiellement, vous n'allez tirer strictement aucune récompense, ce qui induit une erreur de prédiction, cette fois-ci qui est négative, qui va créer un creux de dopamine qui vous poussera par la suite à aller chercher une seconde enveloppe la semaine d'après pour venir compenser ce creux en question. C'est aussi bête que ça. Et chaque semaine, vous allez compenser l'enveloppe que vous avez tirée par une nouvelle enveloppe. Et pour aller encore plus loin, notamment j'en parle dans mon livre, vous pouvez conditionner le tirage de ces enveloppes-là à un score à obtenir de façon hebdomadaire. Pour cela, j'ai mis en place une série de questions qu'elles répondent, qui donnent un score sur 100 ou sur 10, je ne sais plus. Et si 80% de ce score est atteint, vous tirez une enveloppe. Si vous êtes en deçà de ces 80% en question, vous ne tirez pas d'enveloppe. Ce qui vous pousse, par le mécanisme du jeu en plus, à vous dépasser pour obtenir une promesse de récompense. Et également, nouvelle stratégie pour aller plus loin, vous pouvez directement demander à quelqu'un de votre entourage, par exemple votre partenaire, par exemple des collègues ou des amis, d'écrire eux-mêmes les récompenses. Comme ça, il y a une notion de hasard en plus qui vient s'ajouter à l'équation. Le hasard étant très dopaminergique, comme en atteste typiquement le chiffre d'affaires généré par la Française des Jeux. Donc ça, c'est pour le premier outil que je vous invite à tester. Avant de passer au deuxième, sachez que j'ai mis également en ressources, sous cet épisode, dans la partie description, un lien vers un atelier gratuit, où je parle également d'autres leviers pour vaincre la procrastination. Donc si jamais cela peut vous intéresser, cliquez sur le lien disponible en ressources et donnez-moi votre adresse email afin que je puisse vous envoyer vos accès. Ensuite, deuxième levier, le fait de travailler selon vos rythmes biologiques. Et ça, véritablement, quand j'ai découvert ce concept-là, cette notion-là en neurosciences et en biologie humaine, ça a été une révélation pour moi. En effet, votre corps suit un rythme qui évolue tout le long de la journée. J'appelle personnellement ce rythme-là la courbe biologique de la performance. Une courbe simplement qui divise, de façon naturelle, votre journée en trois phases. Première phase qui va de 0 heure, donc de votre réveil, jusqu'à 8 heures, donc les 8 heures qui suivent votre lever. Pas 8 heures du matin, mais à nouveau les 8 heures qui suivent votre réveil. Durant cette phase, votre corps est principalement médié par une production accrue de dopamine et de noradrénaline, deux neurotransmetteurs qui vous poussent à l'action, qui vous poussent à faire des choses, qui vous donnent de la motivation pour agir. Deuxième phase, qui, cette fois-ci, va des 8 heures après votre réveil jusqu'à 16 heures, qui correspond à son niveau à un état davantage de relaxation, d'apaisement et de détente, notamment induit par une production accrue de sérotonine cette fois-ci. Et enfin, dernière phase, qui va de 16 heures après le réveil jusqu'à 24 heures, qui est cette fois-ci davantage une phase de repos, principalement médiée par la production de mélatonine. Ok, pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que la phase de la journée la plus propice pour limiter la procrastination est la phase numéro 1, celle qui est médiée principalement par une production de dopamine et de noradrénaline. C'est véritablement durant cette phase-là que vous aurez l'énergie nécessaire pour entreprendre des tâches conséquentes, et notamment pour activer de façon beaucoup plus importante votre cortex préfrontal. Qu'est-ce que le cortex préfrontal ? C'est la zone de votre cerveau qui est responsable de la planification, de la stratégie, et également de la vision à long terme. Et cette zone-là, quand elle est véritablement, on va dire, activée, du moins quand elle est forte en quelque sorte, elle permet d'accomplir des tâches complexes et compliquées sans récompense immédiate. Du moins, elle permet de le faire de façon beaucoup plus simple que lorsque cette zone est épuisée. Ce qui se produit notamment une fois ces 8 heures après le réveil passé. Donc, autant que faire se peut, capitalisez sur cette phase-là pour faire tout ce qui est compliqué à faire à votre niveau, tout ce que vous repoussez au quotidien, toutes ces tâches qui, à nouveau encore une fois, effraient votre cerveau quand l'énergie commence à lui manquer. Et je le répète à nouveau, je ne parle pas de 8 heures du matin, mais des 8 heures qui suivent votre réveil. Donc selon votre chronotype, cela va complètement varier. Et réservez après les tâches davantage secondaires, comme le traitement des emails, comme les réunions et j'en passe, pour la seconde phase, qui va encore une fois de 8h à 16h après le réveil et qui est principalement médiée par un état d'apaisement lié à une production accrue de sérotonine. Et ça, c'est tout le pouvoir véritablement de comprendre le fonctionnement de son corps et de travailler avec ce fonctionnement-là et non pas à l'encontre de ce dernier. Car quand on sait aligner ses actions, ses comportements, ses prises de décision et ses tâches aux phases biologiques de son organisme, on peut accomplir beaucoup plus. Et surtout, on ne tombe pas dans le piège courant qui est le fait de prévoir des tâches simples, des tâches secondaires, des tâches administratives quand on est en pic de motivation et d'énergie. Car tout cela nous fait perdre du temps. Et à l'inverse, on ne tombe pas non plus dans l'écueil de mettre des tâches trop complexes, trop difficiles quand notre organisme est médié par la sérotonine. Car là, on lutterait contre notre propre organisme et les résultats ne seront jamais positifs. Après, personnellement, je suis allé encore plus loin avec cette courbe-là. Je l'ai divisée en 5 phases. La phase starter, la phase productivité, la phase arrêt, la phase apaisement et la phase repos. Et quand on respecte ces 5 phases-là, avec les bonnes actions, les bonnes routines, les bons comportements, et encore plus quand on vient l'optimiser, en cherchant justement à augmenter rapidement nos niveaux d'énergie durant la phase starter, en augmentant notre production naturelle de dopamine durant la phase productivité et j'en passe, eh bien on devient véritablement performant au quotidien. Ok, donc là on arrive à l'outil numéro 2, maintenant troisième outil, un outil un peu bonus on va dire, qui fait écho à ce dont j'ai parlé au tout début du podcast, à savoir le fait tout simplement que lorsque la deadline arrive, eh bien naturellement, même si on procrastinait jusqu'à présent, un regain d'énergie et un regain de motivation nous poussent à l'action et à au final faire cette tâche-là. Mais souvent malheureusement, ce regain-là n'arrive que la veille au soir ou que quelques jours avant la date fatidique, ce qui nous pousse à travailler nous dans l'urgence, à repousser des tâches en cours pour donner place et donner lieu à cette urgence à traiter. Donc au final, certes on passe à l'action, mais on accumule du retard par la suite et le risque que l'on fasse des erreurs par la précipitation augmente de façon drastique. Et c'est la raison pour laquelle, comme j'ai pu commencer à l'évoquer précédemment, il est plus intéressant non pas de jouer sur l'éros, donc le désir d'obtenir une récompense, mais de jouer sur Thanatos, la peur tout simplement d'échouer, la peur des conséquences de notre échec. Donc lorsque vous commencez une tâche, ou un projet, ou potentiellement la volonté de vous remettre au sport, ou de mieux manger, visualisez certes votre corps futur, au sens positif. Ce que va vous apporter également l'accomplissement de telle tâche ou de tel projet. À nouveau, les externalités positives que cela pourrait vous apporter. Mais également, visualisez parallèlement les conséquences négatives d'un échec. Pour à nouveau générer cette peur intrinsèquement nécessaire au cerveau humain pour qu'il passe à l'action sur un projet à long terme. Et en plus, le positif par rapport à cette visualisation négative-là, c'est le fait tout simplement qu'il ne suffit que de la faire que quelques fois. Je m'explique. Prenons à nouveau le cas des enfants. Un enfant qui se brûle sur une plaque de cuisson ne remettra jamais sa main sur une plaque de cuisson. Car la douleur est tellement forte, tellement vive, et l'intégrité physique est tellement menacée, donc les chances de survie vont tellement diminuer à court terme, que le cerveau va ancrer immédiatement, tout simplement, l'action à ne pas accomplir à nouveau. C'est pareil pour la visualisation négative. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je fais un aparté. Il est très intéressant pour apprendre des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences de créer un choc au niveau du corps au moment de l'apprentissage ou autour de l'apprentissage. Et ça, ça a été documenté depuis des années et des années, notamment au cours du Moyen-Âge, où certains enseignants de l'époque plongeaient leurs élèves dans de l'eau froide après un apprentissage. Car le choc provoqué par le froid glacial venait entraîner le cerveau à mémoriser tout ce qui entourait l'élément négatif pour éviter que les conditions qui l'ont mené à cet événement se reproduisent par la suite. Et sur ce, on va conclure cet épisode sur la procrastination. La procrastination qui, comme je l'espère, vous l'avez compris, n'est pas une tare, n'est pas un problème, n'est pas un défaut, mais est simplement un mécanisme de survie et de défense de votre cerveau. Et à nouveau, si on apprend à travailler non pas contre son cerveau, contre sa programmation naturelle, mais si on apprend à l'inverse à travailler avec, eh bien naturellement, la procrastination, la déconcentration ou encore la démotivation vont disparaître naturellement. Sans hack, sans stratégie, sans outils, sans protocole, sans rien du tout, juste en respectant encore une fois la programmation naturelle que nous avons et dont nous avons hérité surtout de par notre passé de chasseur-cueilleur et même bien avant ça. Maintenant, pour conclure, effectivement, il est possible d'aller encore plus loin quand on parle de procrastination. On peut renforcer davantage le cortex préfrontal pour passer beaucoup plus à l'action. On peut gérer également le contrôle émotionnel. On peut induire une meilleure initiation des tâches, donc pour passer plus facilement à l'action. En fait, les trois outils dont j'ai pu vous parler sont un aperçu des protocoles qui découlent de la compréhension dont on a parlé précédemment, à savoir ces deux leviers principaux qui vont induire le phénomène de procrastination. Donc, à nouveau, pour résumer, nous avons un degré de friction limbique trop important. Donc, trop d'énergie nécessaire pour passer à l'action. Et deuxième élément, à savoir l'insynchronité entre l'effort à déployer et la récompense à obtenir. Et en jouant sur ces deux leviers-là, en les comprenant, on peut sortir un panel d'outils efficaces à nouveau pour jouer avec les règles de son cerveau et donc pour arrêter de procrastiner. À nouveau, pour vous laisser, rappelez-vous qu'il y a deux éléments qui vous attendent directement dans la partie ressources sous cet épisode, à savoir l'atelier sur la procrastination pour découvrir des stratégies supplémentaires et ensuite la fiche résumée et action de cet épisode pour avoir directement à votre possession tous les éléments dont on a parlé. Comme ça, si jamais vous n'avez pas pu prendre de notes à votre niveau, tout est centralisé directement ici. Et en plus, l'accès à cette fiche-là vous donne un accès à toutes les fiches précédentes, ainsi qu'à un forum privé pour me poser directement toutes les questions que vous souhaitez me poser, et auxquelles je répondrai, bien évidemment, personnellement. Et pour vous laisser, pour conclure cet épisode, je ne vais pas, comme à l'accoutumée, vous demander de l'aimer ou de vous abonner à mes contenus, mais de partager ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu, soit à vos enfants, soit aux enfants des autres. Pour que l'on puisse ensemble, et c'est le plus important pour moi, éduquer une nouvelle génération, pour qu'elle ait les clés de compréhension de sa biologie, de sa physiologie, et de l'aspect neurologique également, pour qu'elle puisse comprendre précisément comment jouer avec les règles de son cerveau, afin qu'elle ne soit plus victime de procrastination, de démotivation, ou encore de déconcentration, mais pour qu'elle soit en pleine capacité et possession de son corps et également de sa psyché. Sur ce, bonne journée à vous et à très vite pour un nouvel épisode.